Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je reviens en URSS pour évoquer la personnalité de Mikhail Gorbatchev. Alors, lorsqu'il devient premier personnage de l'URSS, Mikhail Gorbatchev va multiplier les voyages, à l'étranger, en compagnie de son épouse, Raïssa. Et alors, on va assister à un phénomène étrange que certains n'ont pas hésité à qualifier de Gorbimania. La popularité impensable du chef de l'État soviétique et la popularité tout aussi remarquable de son épouse, Raïssa. Alors, il est vrai que jusqu'à présent, les chefs d'État soviétiques ne mettaient guère en avant leurs compagnes ou leurs épouses, à l'exception notable de Nikita Khrushchev, lorsqu'il est venu en Occident, était accompagné de son épouse Nina, qui était une babouchka, comme on dirait, sympathique et souriante. Raïssa, c'est autre chose. Raïssa, c'est l'élégance et le raffinement. En gros, c'est un peu tout ce que le public occidental attend d'une première dame. Et puis, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un accident incroyable éclate dans une centrale nucléaire à Tchernobyl. Alors, pendant longtemps, on n'a pas su exactement ce qui s'était passé et surtout, on n'a eu aucune information sur les conséquences possibles de cette catastrophe nucléaire. Ça a permis à certains de faire preuve d'une bêtise incommensurable. Je pense à ce responsable politique français indiquant que le nuage nucléaire de Tchernobyl s'était arrêté au niveau des Alpes. Cela va contribuer quand même à ternir encore plus l'image de Gorbatchev à l'intérieur du pays. Surtout que, certes, officiellement, la presse soviétique est libre de dire ce qu'elle veut, mais son jeu de mots, c'était une libération non pas conditionnelle, mais très contrôlée. Alors, Gorbatchev a essayé quand même de continuer ses réformes, de lutter contre ce qu'on appelle la stagnation, zastoy en russe. Mais je ne suis pas sûr que le grand public soviétique ait ressenti les effets de ces réformes. Alors, il y a bien sûr des mesures phares. En 1986, l'académicien Sakharov est autorisé à rentrer à Moscou. Je me demande si ça n'a pas eu plus d'effet en Occident qu'en URSS. En 1987, Gorbatchev met fin au système du goulag. Et toujours en 1987, Reagan, qui rencontre à Berlin, lui dit « Abattez ce mur de Berlin. » À Moscou, il y a à la tête du Parti communiste à Moscou. Il y a un homme qui ne m'a pas tenté à faire parler de lui, c'est Boris Eltsine. Et au départ, Boris Eltsine soutient Gorbatchev. Et puis Gorbatchev oublie une chose fondamentale. Il oublie de renvoyer l'ascenseur, il le lâche. Et c'est à partir de 1987 que Boris Eltsine devient l'ennemi acharné de Gorbatchev. Comme quoi. Et puis il y a aussi autre épine, la guerre en Afghanistan. 13 000 morts, 45 000 blessés qui reviennent au pays. Gorbatchev essaie de faire un retrait lent et progressif, mais la marque est déjà dans la population. Et les Russes ont inventé un mot. Ils parlent de Afghanets. Afghanets, ce sont ces anciens combattants d'Afghanistan qui reviennent estropiés, meurtris, invalides. Et tout ça va contribuer à l'impopularité de Gorbatchev. Et puis en 1988, on crée une nouvelle fonction, la fonction de président de la République de Russie, qui doit être élu pour 5 ans. Alors, tout ça, ce sont des étapes possibles vers une démocratisation du régime. Mais cela ne change pas grand-chose à la situation intérieure. Il y a une crise profonde du logement, une difficulté pour s'approvisionner, pour trouver des produits de première nécessité. Et Gorbatchev, pour beaucoup de gens, va apparaître comme le principal responsable, le seul responsable de cette situation. Cela ne l'empêche pas d'avoir une aura internationale assez exceptionnel. En 1989, il y a des élections pour les députés. Au lieu d'instaurer carrément les élections au suffrage universel, il décide que un tiers de ces députés seront élus pour la première fois depuis 1918, au suffrage universel, mais un tiers des députés. Pendant ce temps, Eltsine continue à triompher à Moscou. Il est devenu le maire de Moscou avec 89,44% des suffrages. Et Gorbatchev, qui apparemment ne se douterait de rien, est réélu président du Soviet suprême. Je vous propose une pause musicale.
Тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней. Клюшке своей.
Ель, 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 клюшке своей. Ель, ель, ель.
зоже у моїм щік пісні звонкою долою залив сон в тот же миг. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей, едет, едет к ней, едет к любушке своей.
Едет, 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 едет к любушке своей. Едет, 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 едет к любушке своей.
Динь, 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 и тройка стала, имщик спрыгнул с облучка. Краснодевка подбежала и целует ямщика. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей, едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей.
Едет, 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 едет к любушке своей.
Le 9 novembre, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Sans doute Gorbatchev a mal évalué la portée du phénomène. Brusquement, sans échauffourée, sans affrontement militaire, le mur est abattu. Et on voit arriver dans Berlin-Ouest les Trabants. Les Trabants, ce sont ces voitures d'Allemagne de l'Est. Et c'est un fou ce qui se passe alors dans la ville, dans la capitale de l'Allemagne, qui ne va pas tarder à être réunifiée, puisqu'elle sera réunifiée moins d'un an plus tard, le 3 octobre 1990. On voit des militaires fraterniser des deux côtés de ce qui était le mur. Pourtant, le 6 octobre, quelques jours avant, Gorbatchev est venu à Berlin pour fêter les 40 ans de la République démocratique allemande. Alors, comme souvent, dans des situations pré-révolutionnaires, on peut le voir dans beaucoup de pays, on a le sentiment que les gens qui sont à la tête du pays ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement. Je vous propose une pause musicale. Et lorsque tombe le mur, enfin plutôt 2 jours plus tard, un grand musicien, un très grand musicien, Stislav Rostropovitch, vient avec son violoncelle pour jouer des suites de Bach au pied de ce que fut le mur. Et si vous avez en mémoire les photos publiées à l'époque, il y a là quelque chose d'assez incroyable. Un système est en train de s'effondrer et on voit des gens qui, autour de Rostropovitch, écoutent de la musique de Jean-Sébastien Bach. Avouez que ce genre de choses qui ne s'inventent pas. Mais revenons à Gorbatchev. Gorbatchev, eh bien, à l'étranger, il a toujours autant la cote. En 1987, il est désigné homme de l'année. En 1988, il est désigné homme de la décennie. Il reçoit même le prix Nobel de la paix. Alors que, en Russie même, les choses sont loin de s'améliorer. D'ailleurs, ce prix Nobel de la paix qui a été décerné à Gorbatchev, qui n'est pas allé chercher tout de suite d'ailleurs, il est allé un peu plus tard, il est à peine mentionné en URSS. Tout simplement parce que le souvenir est trop cuisant, on pourrait trop facilement peut-être l'accuser de faire le jeu des puissances occidentales. Alors, après la chute du mur de Berlin, en 1989, en 1991, Boris Yeltsin est élu président de la Russie. Auparavant, en janvier 1991, à Vilnius, les gens se sont révoltés, l'armée est intervenue, a tué impitoyablement. Il semble, d'après ce qu'on sait, que ce n'est pas Gorbatchev qui a donné à l'armée l'ordre d'intervenir. Et nous sommes toujours en 1991. Gorbatchev apparemment n'a pas mesuré l'importance du mécontentement dans son propre pays. Il est parti en congé, en vacances, en Crimée, avec Raïssa. Et c'est là, le 19 août 1991, qu'un coup d'État éclate à Moscou. Ça me semble quand même étonnant qu'un chef d'État n'ait pas été averti ou n'ait pas senti qu'un coup d'État se préparait. Non, il est parti en vacances en Crimée et d'ailleurs, il sera maintenu prisonnier quelques jours, deux, dans sa villa de Crimée. Il ne rentrera à Moscou que le 22 août. Mais pendant ce temps, à Moscou, dont le maire, faut-il le rappeler, son adversaire, Boris Eltsine. À Moscou, les choses sont rentrées dans l'ordre et Boris Eltsine en a profité pour avancer ses pions. Il est monté sur un char du coup d'État, et il a appelé à la résistance sa cote de popularité est au plus haut. Et lorsque Mikhail Gorbatchev arrive dans la capitale. Et en fait, il n'est plus le maître. C'est Boris Eltsine qui est le maître. Surtout que les choses vont pas tarder à se précipiter. L'URSS se disloque. La Russie, la Biélorussie et l'Ukraine deviennent indépendantes, hors de l'Union soviétique qui n'existe plus. Et c'est alors, le 25 décembre 1991, que Mikhail Gorbatchev annonce sa démission à la télévision. Gorbatchev n'est plus qu'un ancien président sans rôle bien défini. Alors, il va profiter de cet éloignement forcé pour écrire ses mémoires en 1995, à lire avec un certain recul quand même. Il fait des conférences. Il perçoit des droits d'auteur. En avril 1996, il a la stupidité, si j'ose dire, de se présenter à l'élection présidentielle contre Boris Eltsine. Il obtient 10,51% des voix. Eltsine plafonne à 35%. Et puis, en 1999, Raïssa disparaît. Je crois que le couple a été un couple uni, malgré les difficultés, dans le succès comme dans les échecs. Mais Raïssa meurt d'une leucémie. En 1999, Boris Yeltsin, rattrapé par les scandales, rattrapé par son ivresse, qui était son alcoolémie, qui était visiblement trop gênante, mais surtout par les menaces de scandales qui risquaient d'éclater, Boris Yeltsin démissionne et arrive au pouvoir un certain Vladimir Poutine. Mais ça, c'est une autre histoire. Et Gorbatchev ? Ah ben, Gorbatchev, il continue. Je ne suis pas sûr qu'il ait complètement réalisé que il n'était officiellement plus rien dans son propre pays. Il va tourner son propre rôle. En 1993, il va tourner son propre rôle dans un film de Wim Wenders. Il va faire de la publicité, oui, de la publicité. Notamment pour Louis Vuitton en 2007. Et puis, de temps en temps, pour peut-être pour rappeler ou pour se rappeler à lui-même qui n'est pas encore décédé, il va écrire des lettres aux dirigeants du monde en leur disant ce qu'ils devraient faire. C'est un peu pitoyable, mais il y a quand même une chose dont il faut se souvenir lorsqu'on pense à Mikhail Gorbatchev. Il a été le dernier chef du régime soviétique. Le régime soviétique s'est effondré comme un tas de cartes. Mais la question qui se pose, si ce n'était pas Mikhail Gorbatchev qui avait été à la tête de l'État, est-ce que les choses se seraient déroulées de façon aussi simple? Car quand même, que l'on prenne la chute du mur de Berlin en 1989, que l'on prenne le démantèlement de l'Union soviétique, à aucun moment il n'y a eu d'affrontement armé. Tout s'est passé pratiquement sans effusion de sang. Et peut-être est-ce sous cette image-là de quelqu'un qui a su éviter les bains de sang, peut-être sous cette forme-là que nous devons nous souvenir de Mikhail Gorbatchev, qui a quand même été une étape décisive dans l'histoire du XXe siècle. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Набравшись сил, чуя смерть.